1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, c'est parti, salut Ghislain.
Salut Philippe,
ça va?
T'as une voix toute feutrée là ce soir, qu'est-ce qui t'arrive?
Bah, je sais pas, voilà. Je vais essayer de la conserver pendant toute l'émission, c'est pas gagné. Mai 68, troisième émission, on a parlé de l'effervescence créative de mai 68. Bah, c'est le moment d'aller dans le plus concret par rapport à ça. On va parler cinéma. On va parler musique pendant deux émissions.
On va refaire SLP passe des disques.
On va refaire SLP passe des disques aussi et parle de films. En 68, c'est vrai que c'est impressionnant. On a regardé un peu ce qui était sorti au cinéma cette année-là. C'est juste hallucinant.
Tu veux que je t'en cite quelques-uns?
Oui, vas-y. Allez, j'en citerai d'autres.
Ouais, c'est l'inventaire de Prévert. Planète des singes, Schaffner. 2001, Odyssée de l'espace.
Bien sûr.
Rosemary's Baby, Polanski. Ouais. Barbarella, Vadim. La nuit des morts vivants.
Oui.
Hein, il était une fois dans l'Ouest.
Ouais.
Le Roméo et Juliette de Zeffirelli.
Oui.
Baiser volé.
Ouais, je crois qu'il y a deux Truffaut même cette année-là. Il y a La mariée était en noir aussi.
Ah ouais. Et Théorème, Pasolini.
Ouais, alors ça, j'y reviendrai lors de la prochaine émission parce que pour moi, c'est vraiment un film marquant. Ouais.
Et encore, je crois qu'il y a Bullitt aussi.
La partie. Blake Edwards.
Ouais.
Ouais. C'est sorti en 68 aussi. John Cassavetes aussi, qui est un cinéaste que j'adore. Il a sorti Faces en 68. L'affaire Thomas Crown.
Oui.
L'heure du loup, Bergman. Et puis L'étrangleur de Boston aussi. C'est un film de Richard Fleischer qui est vraiment à revoir, qui est assez prenant. Ouais, il y en a plein. C'est juste impressionnant. Flesh. Paul Morisset, un des films de la trilogie produit par Andy Warhol. Et premier film, je crois que c'est le premier long métrage de Piala qui s'appelle L'enfance nue. Et un film aussi d'un cinéaste français dont on parle assez peu mais qui est toujours en exercice, qui s'appelle Alain Cavalier. Et donc en 68, il a fait un film qui s'appelle La Chamade, à voir.
C'est impressionnant.
Ouais,
quand
c'est
même,
très impressionnant.
C'est impressionnant. Mmh. Je ne sais pas s'il y a d'autres années où il y a autant de films incroyables.
Oui, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, hein, parce que dans tous ceux qu'on a évoqués, c'est des films qu'on connaît, qu'on a vus, qu'on n'a pas vus, mais qui sont à découvrir en tous les cas.
Qui sont à découvrir. Et des films qui sont importants pour l'histoire du cinéma.
Ouais.
Ou alors des films qui sont peut-être moins artistiquement importants pour l'histoire du cinéma, mais en tout cas qui sont devenus complètement cultes.
Oui. Tu veux parler d'un film plus précisément qu'on n'a pas encore cité, c'est ça?
Ah non, on l'a cité, moi c'est Barbarella.
Ah oui, tu l'as cité déjà, ok.
Moi j'adore Barbarella.
Et ben, je t'avoue que je crois ne jamais l'avoir vu en entier. En entier.
C'est non, pas
ouais,
vrai.
Ouais, tout
à
fait.
Absolument réparer ça, Philippe. Mmh. C'est incroyable. Je vous ai amené le trailer.
Le trailer, ok. Bah, on écoute le trailer de Barbarella.
Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a five-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is...
love.
Shall I tell you what I would like?
I think I know.
Her top secret mission is a real wing-dinger.
Many dramatic situations begin with screaming.
Asuita Sonja! Asuita Sonja!
Could you hand me a garment?
See Barbarella do her thing with the nice angel. With the warm, friendly Iceman. With a cold, evil Black Queen.
Hello, pretty, pretty.
With a charming hand-to-hand Romeo. See Barbarella do her thing in the wild, excessive machine.
Sort of nice, isn't it?
In the biting birdcage, in the chamber of dreams, in the labyrinth of love, in the deadly dollhouse, in the palace of pleasure.
En fait, la bande-annonce, c'est tout le film, c'est ça?
Non, le film, il dure un peu plus longtemps. Mais voilà, ça donne un petit peu l'idée de ce que ça peut être avec la musique et avec l'espèce de sensualité qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, c'est un film qui est d'un érotisme absolu.
Donc, c'est Jane Fonda et c'est Roger Vadim, c'est ça?
Ouais, c'est
qui
ça.
Qui sont en couple à ce moment-là, je crois.
Ouais. Et c'est incroyable, il arrive à faire de Barbarella, de Jane Fonda, mais c'est d'un érotisme absolu, vraiment, dans ses costumes, tout dans ses costumes, avec ses grandes bottes, ses costumes assez courts, etc., les matières qu'il choisit, comment il la met en scène. À un moment, elle dort sur un lit transparent et on la voit du dessous.
Pas en dessous, c'est-à-dire en transparence.
Ouais, c'est ça. Elle est juste allongée comme ça.
Mais maintenant que en évoquant le film, effectivement, maintenant, j'ai des images qui me reviennent et je crois bien que, effectivement, je l'ai vu en entier.
Bah ouais, l'orgasme.
Peut-être
l'orgasme
en plusieurs fois, mais bon.
Je crois. Tu sais, là où il veut la faire mourir à la fin.
Oui.
Il la met dans cette machine, en fait, qui est censée la faire mourir d'un immense orgasme.
Ça y est, les images me reviennent. Étonnant.
Ouais. C'est l'histoire de Barbarella, c'est une espèce d'agent secret dans le futur. Elle est chargée d'aller récupérer un savant fou qui s'appelle Durand Durand.
Waouh. De là vient le nom du groupe des années 80.
De Simon Lebon et tout ça, Durand Durand. Et qui a inventé une arme terrifiante, etc. Donc elle atterrit sur sa planète, elle se manque de se faire tuer par des poupées tueuses. Elle rencontre, les gens font l'amour avec des pilules. Et en fait, là, elle rencontre...
C'est un truc prémonitoire, quoi. Les gens font l'amour avec des pilules.
Ah ouais.
Bleues.
Et elle rencontre des gens justement qui lui disent non mais on peut faire autrement, et en fait elle fait autrement avec un espèce d'ange. Il y a un ange qui vient et qui est aveugle, et en fait il peut plus voler parce qu'il est il est réduit en esclavage
C'est un ange déchu.
Voilà, et en fait elle fait justement l'amour sans pilule avec lui, et à partir de là il peut revoler de nouveau. C'est plein de choses comme ça. Il y a la ville de Sogo qui est la ville de la reine noire, Sogo, Sodome et Gomorre, qui est la ville de la reine noire, la ville du péché où il y a un péché qui est inventé toutes les minutes, etc. Enfin, très sexuel, très...
Et dans mon souvenir, les images sont psychédéliques à mort.
À fond. Il y a des costumes de Paco Rabanne et tout ça. Enfin, on est à fond dans l'esthétique psychédélique. Et je te dis, d'une espèce d'érotisme et de liberté et de joie qui est...
Y compris dans la narration, apparemment, parce que d'après ce que tu racontes, ça part dans tous les sens.
Ouais, alors on peut pas dire que ce soit non plus un scénario absolument extraordinaire.
Oui, non, le film est pas connu pour ça, c'est sûr.
Mais c'est juste parce qu'il véhicule comme atmosphère, comme idée, comme air du temps, liberté, en fait,
ouais,
qui est vraiment... que moi, j'adore.
Ok, à revoir, donc.
Ouais.
Bon... Pause musicale, en 68, les Doors chantent, entre autres, Spanish Caravan. Ce titre,
pas du tout.
Alors c'est effectivement sur l'album qui est sorti en 68 des Doors, Waiting for the Sun. J'ai envie qu'on fasse la même chose pour les albums sortis en 68 qu'on a fait en début d'émission pour les films, parce que c'est pareil, c'est juste impressionnant.
Tu veux dire une petite liste, inventaire.
Voilà, un inventaire à la Prévert.
Alors vas-y.
Je commence par un album que moi je trouve génial, l'album des Beatles, le double album blanc avec une c'est un double album où, en gros, il doit y avoir, je ne sais pas, une trentaine de titres. Et ça annonce toute la musique pop-rock des 25 ans qui vont, des 25 ou 30 ans qui vont suivre. C'est hallucinant. Il y a l'album de Jimi Hendrix, Electric Ladyland, Beggar's Banquet des Rolling Stones. On a passé un extrait la semaine dernière. Music from the Big Pink, The Band. Astral Weeks, Van Morrison.
Ouais.
Simon & Garfunkel, Bookends.
Simon & Garfunkel.
L'album des Kinks, qui est un des plus cotés dans par les rock critiques. Un album qui s'appelle The Village Green Preservation Society.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Velvet Underground, White Light, White Heat. Un album aussi qui est une référence de Johnny Cash, qui a commencé sa carrière en 68, mais qui est allé chanter dans les prisons. Donc l'album s'appelle At Folsom Prison. C'est un album live et c'est vraiment un album référence dans la discographie de Johnny Cash. The Dock of the Bay, Otis Redding.
Ben ouais.
A Source Full of Secrets, les Pink Floyd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, des albums français aussi,
ah, faut bah, pas quand même, quand même.
Initials BB de Serge Gainsbourg. Ouais. Comment te dire adieu?
Françoise Hardy.
Brigitte Fontaine.
Brigitte Fontaine.
Ouais, ce qu'elle considère être son premier véritable album. Brigitte Fontaine est folle. Il est 5h.
Paris s'éveille.
Ouais, Jacques Dutronc.
Et Rain and Tears.
Ah oui, c'est 68 aussi.
Ouais. Oui. Mm-hmm. Mrs. Robinson, hein, ouais. Simone. Born to be Wild, Steppenwolf.
Ouais.
Mm-hmm. I Heard It Through the Grapevine.
Ouais, c'est ça.
On en a parlé
ouais,
aussi.
Tout à fait.
Mm-hmm. Et Aretha Franklin.
Oui, Aretha Franklin. Ouais.
Les grands succès d'Aretha Franklin à cette époque.
On passera de l'Aretha Franklin.
Et quand même.
Oui, je sais que tu y tiens, vas-y.
Oui, quand même. La Maritza. De Sylvie Vartan.
Bon, ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute en fin d'émission.
Oh, waouh!
Cadeau. Mais avant, quand même, ouais. Avant, j'ai envie qu'on parle d'un film phénomène. Et on l'a évoqué, mais avant qu'on en parle plus précisément, je te propose qu'on écoute une des nombreuses bandes annonces de ce film. C'est parti.
The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
Là, Odyssée de l'espace.
Ouais.
Kubrick.
Ouais.
Ouais.
Ben, rien, c'est fou comme c'est. Juste en entendant les musiques, on sait de quoi on parle.
Ouais, on sait de quoi on parle.
Mmh. Pourtant, c'est pas des musiques qui ont été composées spécifiquement,
non,
tu vois.
Non.
Mais voilà, c'est. Ce film, il est incroyable.
Mmh. Alors, effectivement, ce film est incroyable. Il y a toute une. Alors, déjà, c'est l'adaptation d'un roman. De Arthur C. Clarke, qui a participé aussi à l'élaboration du scénario avec Kubrick. Alors, comment parler de ce film, c'est quand même assez compliqué. Hein, parce que,
surtout en 3 minutes et demie.
Surtout en 3 minutes et demie. Bon, on va voir un petit peu plus, à la limite, on peut faire 5-10 minutes dessus. Déjà, est-ce que tu l'as vu plusieurs fois? Tu l'as vu récemment?
Je l'ai vu qu'une fois, ça fait très longtemps.
D'accord. Et alors, la grande question, c'est. Est-ce que tu l'as compris?
Non, et je pense que celui qui dit qu'il a compris ce film, à mon avis, c'est un grand menteur. Tu ne peux pas comprendre ce film. Mmh. Il est tellement grand que... en entier, tu peux pas comprendre ce qui se dit.
Mais alors, c'est très intéressant parce que Kubrick lui-même, alors je sais plus quel terme il utilisait exactement, il disait que, enfin, c'est un film qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, c'est son intérêt principal aussi. Il disait de son film en fait que c'était une expérience visuelle et sensorielle, non verbale en l'occurrence, et que d'une certaine façon, il ne fallait pas le comprendre d'un point de vue intellectuel. C'était vraiment une expérience à faire. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut prendre ce film. Et je l'ai revu pour préparer l'émission.
Waouh!
Je crois que c'était la troisième fois que je le voyais. La première fois que je l'ai vu, c'était assez tardivement. En fait, c'est un film, finalement, dont on entend beaucoup parler. Sauf à l'avoir vu peut-être à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire en 68, mais il fallait avoir l'âge pour. Il y a beaucoup de gens qui, en tous les cas de ma génération, qui connaissent le film sans forcément l'avoir vu. Je me suis aperçu que finalement, on en parlait beaucoup, mais qu'il y avait des gens encore qui connaissaient le film mais qui ne l'avaient pas vu en entier. C'est vrai que c'est une expérience à faire. Il ressort, je crois, prochainement. Oh. C'est le cinquantenaire. Hein, je ne sais pas quand exactement, mai, juin, enfin très prochainement. Je me demande même si lors du prochain Festival de Cannes, en mai, il ne va pas y avoir un truc autour du cinquantenaire de ce film et peut-être une ressortie en salle. Je recommande en fait à tous les gens qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont déjà vu de retourner le voir en salle parce que je pense que c'est vraiment
ça doit être incroyable.
Ouais, c'est salle. Ça. C'est, je pense que c'est un film qu'il faut voir véritablement dans des conditions excellentes et au cinéma, quoi. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est clair.
Et c'est bon pour l'avoir revu rapidement chez moi en vidéo. C'est vrai, comme tu le disais, je pense que c'est pas un film qu'il faut chercher à expliquer. Par contre, du coup, après l'avoir vu, j'ai cherché pas mal de choses sur Internet. Et aujourd'hui, effectivement, le média Internet permet aussi peut-être d'avoir assez rapidement des clés de lecture sur le film qui sont intéressantes. Alors, toutes ne le sont pas, mais vous en trouverez forcément qui vous ouvriront des perspectives sur le film. Déjà, ne serait-ce que de façon assez simple, en précisant la structure du film. En gros, il y a quatre parties. L'aube de l'humanité, on peut les citer rapidement, l'aube de l'humanité. La deuxième partie, c'est les années 2000. La troisième partie, c'est la mission vers Jupiter. Et la quatrième partie, c'est au-delà de l'infini. Donc, dans ces quatre parties, en fait, on retrouve des éléments, notamment un élément qui est le fameux monolithe.
Oui.
Tu te souviens de ce monolithe noir ? Alors, il y a plein d'interprétations autour de ce monolithe, mais on le retrouve systématiquement dans chaque partie sous des emplois un peu différents. Alors, est-ce que, pareil, sur la signification de ce monolithe, il y a plein de théories qui s'opposent, quoi. Donc, allez chercher vous-même, je pense que c'est le plus intéressant. Et puis après, voilà, à chacun de se faire sa propre idée autour de ça.
Ce qui est formidable, tu vois, c'est que ce film, en fait, il a inspiré plein de choses. Et qu'on relit, en fait, même si, moi, ça fait super longtemps, je l'ai vu vraiment, j'étais ado, quelque chose comme ça, donc ça fait super longtemps. Mais il y a encore les images qui sont présentes et tu arrives à les décrypter, à les reconnaître et les musiques aussi. Et tu vois toutes les références dans les films ou dans le théâtre. Je pense à chaque fois que je pense à ce film-là, je relis toujours dans ma tête, ça se fait automatiquement, pratiquement, avec Einstein on the Beach,
oui,
qu'on avait vu. Parce que je trouve que c'est la même esthétique, c'est la même.
Tu as raison.
Il y a
quelque chose qui est assez similaire. Alors, justement, sur l'esthétique du film, c'est intéressant parce que en 68, effectivement, la technologie pour créer des effets spéciaux n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et malgré tout, la puissance esthétique de ce film, pour moi, elle perdure. C'est vraiment absolument étonnant. Aujourd'hui encore, ça produit effectivement un effet esthétique et sensorielle sur le spectateur qui, de mon point de vue, reste très puissant et très prégnant. Quoi. Mmh.
C'est, et puis, un film qui engendre autant de questionnements, autant de gens qui réfléchissent là-dessus, sur qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire, faire, qu'est-ce qu'il nous raconte, et qui produisent de la littérature et de l'interrogation, c'est... c'est quelque chose qui reste, comment dire, comme les pièces de Shakespeare. J'avais vu un jour une conférence de Daniel Mesguich, grand metteur en scène, qui parlait d'une mise en scène de Shakespeare qu'il avait fait, notamment de Hamlet. Mm-hmm. Et il disait, en fait, par exemple, le « to be or not to be », c'est des mots qui sont les uns à la suite des autres. Ils ont un sens, mais point, on peut s'arrêter là. Il dit, ce qui fait aussi tout la grandeur, tout à coup, toute l'ampleur que va prendre une pièce de théâtre ou une phrase, c'est aussi toutes les réflexions que les gens y mettent derrière.
Oui. Mmh.
Et il dit, voilà, là, ça fait 5 siècles qu'il y a des gens qui réfléchissent sur « to be or not to be ». Et là, nous, ça fait 50 ans que les gens réfléchissent sur ce film-là. C'est qu'il y a quelque chose, tu vois, et ça va rester une des grandes œuvres comme les grandes œuvres de théâtre du passé, avec des gens qui réfléchissent,
qui continuent à interroger et à inspirer, parce qu'effectivement, ça reste un film référence quand on voit des cinéastes contemporains comme Nolan. Son film relativement récent, Interstellar, alors pour moi, c'est le film intéressant, mais il est pas à la hauteur du film de Kubrick. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, dans les films de Kubrick, contrairement au... Même si j'apprécie plutôt Christopher Nolan, il a fait plein de films super intéressants, mais chez Kubrick, il y a toujours une dimension... énigmatique, de mystère, qui laisse sa part à l'interprétation. En fait, c'est des films dans lesquels on peut rentrer et chacun, en fait, peut s'approprier ce film, en faire sa propre interprétation. Ce qui n'est pas forcément le cas des films de Nolan, où en gros, c'est plus, même si c'est extrêmement brillant, il peut y avoir une explication. C'est des films de virtuoses, mais qui sont fermés, contrairement aux films de Kubrick. Enfin, c'est mon point de vue.
Et puis il y a une dimension importante, c'est toutes ces dimensions sensorielles, c'est-à-dire que, voilà, cette expérience sensorielle dont tu parles. Et ça, c'est comment dire, c'est aussi une spécificité, une originalité, quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres cinéastes.
Non, c'est rare.
On fait plus appel à l'intellect, on fait plus appel... Alors que là, on fait appel au sens.
Et au sens.
C'est ça qui est déstabilisant, en fait, aussi.
Exactement. Ben voilà. J'espère qu'on aura donné envie de voir ou revoir 2001. Y a matière, c'est un film vraiment qu'on n'épuise pas. Et bah, du coup, chose promise, chose due, c'est le moment de se quitter pour cette émission, Ghislain.
Donc, là, il va falloir qu'on soit très souple quand même. Grand écart.
C'est la totale. Mais on aime bien ça aussi à SLP. Donc on conclut l'émission avec...
Avec la Maritza.
De Sylvie Vartan.
Bah oui.
La des années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant,